sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute littérature. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Sarah Dion. La prise de son est assurée ce soir par Jacques Hubert. La réalisation, Alexandre Fougeron. Autour de moi ce soir, Lucille Como, Grégoire Leménager et Laurent Nunez pour parler ensemble de Anne Saraka, de Mathieu Simonet au Seuil, L'Indésirable de Louis Guilloux chez Gallimard. Laurent Nunez nous fera part de son coup de cœur pour Pouvoir de l'imposture. Il a complètement oublié qu'il devait faire un coup de cœur de Maxime Decoux. Vous savez bien, vous avez une trentaine de minutes tout en débattant pour vous souvenir de ce livre paru aux éditions de Minuit. Il n'a pas fait son travail, c'est très mal. Sinon, le petit salon de Lucille Como sera plus long. Il sera consacré aux lectures enfantines. Laurent Nunez a changé de couleur, hein, c'est merveilleux. Bon, vous pourrez après réfléchir à la question du jeu de la dispute qui vous fera gagner ce soir des invitations pour le film « Peu m'importe si l'histoire nous considère comme des barbares » de Radu Chud, qui est sorti hier sur les écrans. Nous ouvrons cette dispute avec Anne Saraka de Mathieu Simonet, publié au Seuil. Avant le livre, il y a eu un film documentaire avec le même titre. Nous en écoutons un extrait qui résume l'objet du film et donc du livre.
J'ai rencontré Anne Sara, j'avais 11 ans. On était dans le même collège. Pendant des années, on ne s'est pas fréquenté. On s'est revus par hasard après le bac. Anne Sara s'était métamorphosée. Elle avait des jambes incroyables, elle bougeait ses mains dans tous les sens. Depuis, on s'appelle presque tous les jours. On a fait nos études de droit ensemble, on voulait tous les deux devenir écrivains. Anne Sara a appris la langue des signes et a créé un service juridique dédié aux sourds. Un soir, pendant l'apéritif, Anne Sara m'a annoncé qu'elle allait peut-être perdre la vue. Je ne l'ai pas cru. Elle a dû arrêter son métier de juriste en langue des signes. Elle ne voyait plus les mains des sourds qu'elle défendait. Anne Sara a été opérée des yeux. Ça ne s'est pas très bien passé. Ça faisait alors 30 ans qu'on se connaissait. J'ai commencé à la filmer. Anne Sara était déprimée. J'avais l'impression qu'elle avait perdu de sa superbe, que son port de tête s'était brisé. Je ne savais pas comment l'aider. Je lui ai dit « Écris, écris ce que tu es en train de vivre ». J'avais conscience que c'était tout aussi dérisoire qu'essentiel. Actuellement, Anne Sara travaille sur un projet de livre avec toutes les difficultés pratiques que cela pose.
Voilà pour l'extrait du film Anne Sara K de Mathieu Simonet, des propos qu'on retrouve pour partie, évidemment écrits autrement. Pour ce livre qui vient d'être publié aux éditions du Seuil, c'est Laurent Nunez qui commence à nous en parler.
Oui, c'est un livre qui continue l'œuvre que crée Mathieu Simonet autour de sa propre vie et autour de la vie de ceux qu'il connaît. On a déjà parlé de Barbe Rose il y a un an ou deux sur son père. Il avait écrit les carnets blancs sur ma mère bonne sur sa mère. Là, il revient sur une histoire d'amitié, une très belle histoire d'amitié avec Anne Sara K. Le cas pour Kertudo, on le verra après, qui est une de ses amies d'enfance. Et les deux, Mathieu Simonet dans le livre et elle dans le livre aussi, parce qu'il faut, c'était aussi des personnages de fiction, il ne faut pas non plus y voir une pure autobiographie, vont devoir vivre avec en révélant leur véritable nature. Mathieu révélant qu'il est gay. Et Anne Sara révélant qu'elle est sourde. Voilà, c'est-à-dire qu'elle a quelqu'un qui arrive à jouer le jeu, à faire croire qu'elle entendait alors qu'elle n'entend pas. Et c'est cette amitié-là qui va se révéler au fur et à mesure de leur enfance, de leurs études d'avocat, notamment. Et c'est une histoire qui s'élargit au fur et à mesure. Ça qui est très beau, c'est non seulement une histoire d'amitié entre un garçon et une fille, mais c'est centré sur eux, et en même temps on part sur plein d'autres personnages qui ont aussi leur gouffre. on peut pas en dire beaucoup, mais entre l'ophtalmo qui va pas très bien au couple de migrants qu'on essaye d'héberger, à la mère qui essaye d'être démesurement généreuse, ou au père qui n'envoie qu'un seul texto, etc. Il y a toute une galerie de personnages, peut-être qu'aussi handicapés du cœur ou de par la vie, en tout cas, qui vient des cabossés, on dirait, des cabossés qui passent dans un livre qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup fait rire. C'est la première fois que je vois ça chez Mathieu. Il y a aussi beaucoup d'humour.
Mathieu, c'est un ami.
C'est un ami.
À Mathieu Simonet, donc.
Mathieu Simonet.
Parce que vous dites Mathieu, donc je relève le fait que vous parliez que par son prénom. Bon. Je reviens vers vous, Laurent Nunez, mais je voudrais avoir un premier regard de Grégoire Leménager, que nos auditeurs ou auditrices qui entendraient des travaux ne s'étonnent pas. Nous sommes à la maison de la radio, qui est la maison des travaux. Et comme il fait terriblement chaud dans ce studio, nous avons ouvert les fenêtres. Voilà. Disons-le simplement. Grégoire Leménager.
Pour survivre.
C'est un peu ça, oui.
Alors, Mathieu Simonet, moi, j'avais lu des textes assez brefs de lui. Je le trouvais plutôt intéressant. Je trouve qu'il parle bien de sa démarche autobiographique. Je n'avais jamais lu ses livres, parce qu'il me semblait que ça parlait souvent d'histoires assez, assez sordides, assez compliquées, avec ses parents. Et je dois dire que je ne m'étais pas précipité sur ses livres. Et celui-ci, je l'ai lu avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, de plaisir et d'admiration. Parce que c'est vrai qu'il a un tact infini pour parler de cet ami qui ne voyait pas très bien quand ils étaient jeunes, puis est devenue sourde, puis ne voyait plus du tout. Il en parle très bien, sans jamais susciter la moindre pitié, ce qui n'est pas évident avec un sujet pareil. Il dit une ou deux fois qu'il a peur de la manière dont elle va réagir en lisant le livre. Forcément, toute personne qui se retrouve dans un livre, elle est confrontée à une image un peu déformée d'elle-même, mais je vois pas ce qu'elle pourrait reprocher à ce livre, parce que il en fait vraiment un portrait magnifique de cette fille. Il y a beaucoup de passages très drôles quand ils vont au sexodrome ensemble. Il y a un passage d'anthologie où il raconte comment elle a organisé parce qu'elle a un côté très militant quand même, donc elle a organisé un procès dans le noir dans un palais de justice pour sensibiliser le monde de la justice à la manière dont on peut s'adresser à des gens qui ne voient pas. Un procès qui était scénarisé à l'avance, qui était scénarisé par Afed Ben Othman. Je ne sais pas si vous voyez qui est Afed Ben Othman. Il nous a malheureusement quitté il y a deux ou trois ans, mais c'était un auteur de polar qui était lui-même un braqueur multirécidiviste. Donc la justice ne voyait pas d'un très bon œil le fait que tout ce cirque soit en plus scénarisé par Afed Ben Othman. Et voilà, donc vraiment le livre est très beau, et je trouve qu'il a une façon de restituer le passage du temps sur une vingtaine d'années comme ça. Bon, il se trouve que je suis à peu près de leur génération en plus, donc à l'arrière-plan, il y a les élections présidentielles qui se suivent, il y a des choses comme ça. C'est très très bien. La seule chose que je trouve un petit peu dommage, c'est une vieille chanson que je vais reprendre, mais j'ai du mal à... Je trouve ça dommage que ça s'appelle un roman, un livre comme celui-là, parce que enfin, ce personnage d'Anne-Sara Kertudo, il est tellement extraordinaire que dans une fiction, moi je n'y croirais pas. Voilà. Et le fait de savoir que c'est vrai... Ça authentifie tout ce qui est raconté.
Alors, on a
ça
pas
pose
encore
vraiment un problème de perception.
Ben,
de
on va revenir sur ce débat dans un instant, mais elle n'a pas encore évoqué la forme même de ce livre. Nul doute que Lucile Gaumeau a prévu de nous en parler, parce qu'on parle d'un roman, on peut dire quand même qu'il n'est pas chapitré, que ce sont des paragraphes qui ont des espaces entre eux, mais qui déroulent un fil d'une façon qui peut être celui de la pensée ou des mémoires. Lucile Gaumeau.
Oui, j'étais assez séduite par la forme au début. De manière générale, ma lecture a évolué plutôt négativement. Je suis pas très très convaincue par le livre. Je trouve qu'il promet quelque chose, qui est notamment le fait que ce soit un livre sur un livre, ce que je trouve assez passionnant. Par ailleurs, que ce soit un livre sur une amitié, qui est une matière pas forcément très 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 abordée dans le roman et dans la littérature française. Et je trouve qu'on perd un petit peu l'intérêt. C'est C'est un livre qui peut contenir en effet plusieurs paroles. Vous parliez de la forme, il y a beaucoup de polices différentes parce qu'il inclut, du moins il prétend inclure la parole de beaucoup de personnes autour de lui-même, autour du jeu. Il y a la mise en place en effet d'un réseau de personnages, de noms qui apparaissent, qui finissent par former quand même une sorte de microcosme parisien, une forme d'entre-soi, bon, pourquoi pas, mais qui je trouve se ferme beaucoup au fil du roman. Il y a un passage où le narrateur raconte que dans une forme de crise un peu d'autocentrisme, il se met à lire son propre manuscrit devant des élèves, devant une classe, et je trouve que pour mettre en scène cette espèce de narcissisme, le livre ne l'interroge pas assez par ailleurs. Je trouve que c'est un livre très, très centré sur le narrateur. Vous parliez tout à l'heure de cette espèce de coïncidence de découverte à la fois en effet du handicap, de l'homosexualité. Il y a aussi la découverte de la vocation d'artiste, hein, parce que de la vocation d'auteur, c'est le cas des deux personnages. Ça, c'est très intéressant, je trouve. Puis c'est politiquement pas forcément très correct en termes de comparaison, de juxtaposition. Et c'est peu exploité, ça l'est un petit peu au début, mais on perd beaucoup le fil de ce parallèle-là qui me paraissait intéressant, de la même manière qu'on perd beaucoup d'enjeux. Il y a, au début du livre, quand le personnage est encore adolescent, il y a la question de son appartenance sociale, là où il se situe. Il a grandi dans le 16e arrondissement, mais il n'est pas exactement du même milieu social et intellectuel que les gens qui l'entourent. Ça crée des problèmes dans ses amitiés, dans ses rapports avec les autres autour de lui. Tout ça, on le perd beaucoup, et je crois que c'était ça qui m'intéressait, et... Voilà, en termes de forme, vraiment, je trouve qu'il se délite, ce livre. Il se délite, il est assez tenu au début, la fin n'intéresse plus du tout. Il y a par exemple l'inclusion finale d'un début alternatif qui aurait pu être le début du livre, que je trouve vraiment pas très intéressant, je vois même pas pourquoi il est là. Après, il y a d'autres choses qui m'intéressent, mais j'y reviendrai peut-être, c'est justement dans ce que la forme, dans ce que la confrontation de cette forme-là au film... crée. Et là, pour le coup, il y a des choses intéressantes.
Ah, bah on y reviendra alors. Moi, j'ai un peu la même expérience que vous, Lucille Comeau, c'est-à-dire un plaisir, ou un intérêt plus exactement, pas vraiment plaisir, un intérêt de lecture qui s'est délité au fur et à mesure de la lecture de ce livre. Alors, j'ai essayé de retrouver dans ma bibliothèque Barberose, mais je ne l'ai pas trouvé, parce que je me demandais si c'était écrit de la même façon, parce que là, cette écriture très à plat, très factuelle, moi m'a empêché d'entrer en fait dans leur cercle. J'étais tout à fait spectateur, mais très extérieur, et du coup il n'y a pas d'empathie, enfin, ou pas d'intérêt que j'ai moi ressenti, en tout cas. Donc je vois bien le projet, et, y compris la mise à distance et l'écriture à plat, mais du fait ça moi a tenu complètement à l'écart. Et le fait est qu'il y a plein d'enjeux qui sont évoqués au début du texte, comme vous le disiez, Lucille Comeau. J'aurais aimé en voir certains sortir, je ne les ai pas vus. Lucille, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, juste pour ajouter quelque chose sur l'écriture, en effet, qui est assez blanche. Comme c'est un livre qui entend livrer un portrait d'une personne qu'on nous décrit par ailleurs comme extrêmement charismatique, on a du mal à y croire presque. Vous disiez, Grégoire, que vous aviez été impressionné par le personnage. Moi, je pense que j'ai dû attendre le film pour vraiment prendre l'ampleur du charisme de cette personne. Et de ce point de vue, il n'est pas très généreux, le livre. Il nous donne peu de choses.
Grégoire, le ménager.
Non, je ne suis pas d'accord, parce qu'il décrit quand même beaucoup de scènes. Il le décrit avec ce que vous appelez une écriture blanche. Il y a une espèce de... je dirais pas une écriture blanche, mais il y a une forme de maladresse aussi stylistique, mais qui est complètement assumée par Simonet. C'est là que je trouve ça assez étonnant, assez touchant. Il a une façon de... Il y a des moments où il parle de ce que l'écriture représente pour lui. Je trouve qu'il y a des petits embryons de théorie littéraire qui sont assez chouettes sur l'idée qu'il se représente avec beaucoup d'humour comme un type un peu exalté, un peu illuminé, qui encourage tous les gens à écrire leur vie, parce que lui, il est persuadé que c'est comme ça qu'on peut se réconcilier avec soi, il assume totalement la démarche un peu thérapeutique que peut avoir l'écriture de soi, alors, et du coup, le narcissisme qui va avec, mais je trouve qu'il dépasse cet écueil-là. Après, le livre, c'est vrai que sur la longueur, il est peut-être un peu long. C'est vrai que dans le dernier tiers, il y a quelque chose qui est un peu lassant, au moment où Anne-Sara est réellement handicapée, disons-le, par ses yeux qui ne fonctionnent plus. Ils passent son temps à insister sur le fait qu'ils passent leur temps eux-mêmes à hurler de rire, pour bien nous montrer qu'elle continue à déborder des jets d'énergie vitale. Et cette expression de hurlement de rire, au bout d'un moment, me sortait par les yeux. Mais bon, ça fait partie des petites maladresses du livre aussi. C'est vrai que dans la dernière partie, c'est peut-être un peu moins intéressant.
Laurent Nunez.
Oui, mais c'est vrai qu'il y a une écriture blanche chez Simonet, mais qui est là pour refuser de faire des belles lettres, pour refuser de faire la littérature de, alors, qui est un principe qui équivaut chez d'autres écrivains.
Oui, comme ça, je me souviens que ça avait marché sur moi pour Barberose, donc par rapport à son père, où justement cette apparente froideur du texte mettait au contraire très en avant la dureté ou la noirceur de leur, ou la perversité de leur relation, alors que là, ça me fait plutôt l'effet inverse, une preuve, une barrière.
Parce que c'est vrai que leur relation est unique et c'est compliqué d'y rentrer. Mais justement, moi, le livre m'a plu parce que il essaye. C'est une relation incompréhensible. Vous l'avez dit très souvent, Simonet essaye de faire écrire tout le monde. C'est assez drôle d'ailleurs, et il est vraiment comme ça dans la vie, lui qui tient des dizaines d'ateliers, qui va dans les lycées, etc., pour faire écrire à peu près tous les gamins de France, j'ai l'impression. Il y a quelque chose comme ça d'assez drôle.
C'est un missionnaire, quoi.
Oui, et c'est-à-dire que c'est aussi l'histoire de quelqu'un qui croit qu'il sait mieux que son ami ce qu'elle sait faire. Il la force presque à être avocate, à refaire ces concours qu'elle a ratés, etc. Il y a quelque chose d'assez fort là-dedans sur l'idée d'un ami qui veut démesurément le bien de quelqu'un. Moi, je trouve ça très beau. Et si la fin change complètement, c'est parce qu'il arrive à un nouvel accident. Anne-Sara perd la vue et donc le livre tourne vers le scénario, puisqu'on est en train de faire un film. C'est-à-dire que du coup, il utilise ses propres yeux pour lutter contre la cécité de son ami. Donc c'est le livre change parce que la vie d'un coup a une catastrophe.
Alors c'est vrai que par rapport au film, si comment vous vouliez en parler, alors on a eu la chance de pouvoir le visionner. Je ne sais pas dans quelles conditions on peut le voir, ce livre, sans doute dans des soirées un peu spéciales où il y a des projections organisées ou des festivals ou autre.
Je me demande s'il n'est pas passé sur Arte il y a pas longtemps.
Ah, s'il n'est passé il y a pas longtemps, il y a peut-être des chances dans un replay. Enfin bon. Donc le film s'appelle aussi Ansaraka. Lucille Como,
oui, en regard du livre. C'est de voir le film après, parce qu'on nous promet en effet tellement de choses sur cette personne exceptionnelle qu'à mon avis on n'obtient pas à la lecture, qu'il y a nécessairement à la fois quelque chose de déceptif à la découvrir vraiment, comme quand on vous découvre vous, Arnaud Laporte,
dont on a entendu décevant. Que la voix. C'est toujours décevant, je vous remercie Lucille, c'est agréable.
Non mais vous voyez ce que je veux dire. Non mais si, forcément, quand on voit la tête de quelqu'un dont on a beaucoup entendu parler, il y a forcément le risque que ce soit décevant. Et en même temps, il est en effet tellement exceptionnel ce personnage-là, que très vite, avec quelques plans que je trouve assez beaux, pour le coup je trouve que formellement le film se tient, on découvre vraiment ce qu'elle est. Et notamment, je pense à une scène où elle est chez l'ophtalmo, il la filme à plusieurs reprises chez l'ophtalmo, moi j'aime beaucoup ces scènes-là, de toute façon j'adore les scènes chez le médecin dans les films.
Et
elle voit de moins en moins, et alors qu'il est en train de, je sais pas quoi faire, elle touche avec ses mains, dont elles sont qui sont beaucoup beaucoup décrites dans le roman, les appareils qui sont d'une complexité incroyable, et ses mains qui touchent les appareils, vraiment je trouve que ce sont des plans très réussis, dont la fraîcheur, enfin vraiment qui nous atteint beaucoup plus que tous les textes du livre.
Bon, faites-vous votre avis par vous-même, en vous procurant, en vous faisant offrir, en achetant Ansaraka de Mathieu Simonet, publié aux éditions du Seuil. À suivre dans la dispute L'Indésirable de Louis Guillou, le temps pour Laurent Nunez de rédiger son coup de cœur pour Pouvoir de la posture de Maxime Decoux, chez Minuit. Si vous n'étiez pas là au début de l'émission, Laurent Nunez avait oublié qu'il avait un coup de cœur ce soir.
Je suis un imposteur.
Lucille Como, je crois, a préparé très longuement son petit salon, donc ça, il sera bien là.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute consacrée à la littérature avec L'Indésirable de Louis Guillou, publié chez Gallimard, écrivain né à Saint-Brieuc en 1899. Il y est mort en 1980, et entre ces deux dates, beaucoup de choses. Il y aura un premier roman, La Maison du Peuple, paru chez Grasset en 1927. Le plus célèbre de ses livres, Le Sang Noir, comme on dit dans ces cas-là, manque de peu le prix Goncourt en 1935, donc ça veut dire qu'il ne l'a pas eu. Cette même année, 1935, Louis Guillou participe au premier congrès mondial des écrivains antifascistes. Il en deviendra le secrétaire de ce congrès mondial. Engagé dans la résistance, il va se lier d'amitié notamment avec Marcel Camus en 1945. Il va recevoir le prix Renaudot en 1949 pour le jeu de patience. Le livre dont nous allons parler aujourd'hui, L'Indésirable, était à ce jour inédit. On va parler de ce fait, évidemment. Louis Guillou l'avait écrit en 1923, tout jeune homme, encore très marqué par la Première Guerre mondiale. Lanzer n'était pas de ceux qui assurent que la guerre est mauvaise et lui vouent leur haine. Il n'avait rien de commun avec les socialistes, qui sont de mauvais français, des éléments de trouble et de discorde, des gens sans âme qui identifient la patrie à leur ventre. Lanzer était un bon républicain qui tenait fermement à ses principes, principes il est vrai qu'il n'avait pas choisi, mais qu'on avait choisi pour lui. Il était un républicain éclairé. Il savait, pour avoir lu des philosophes, que si la guerre venait à disparaître, le monde serait en deuil d'une de ses formes les plus grandes de la beauté. Adieu ! Alors, l'héroïsme et toutes les vertus cornéliennes. Il avait aussi des idées sur la patrie. Il savait qu'il faut défendre la patrie quand on l'attaque, qu'il n'est rien de plus beau que la patrie, qu'il n'est point de sort plus enviable que celui de mourir pour elle. Il savait cela. Et quand il parlait, il hochait la tête, un homme qui sait ce qu'il dit, et comprend la gravité de ses paroles. Mais ce qu'il croyait être profond en lui, aussi définitif et aussi net que la forme même de sa personne, n'était en réalité qu'appris. Seulement, il n'en avait pas conscience. On lui avait enseigné à croire à la guerre et à la patrie. On avait pu lui enseigner la bonté. Il était bon comme l'eau coule. Sa tendresse faisait échec à la rigueur de ses principes, à l'étroitesse de son esprit. Il souffrait de la souffrance universelle, tout en assurant que le mal était nécessaire et qu'il n'en pouvait sortir que du bien. Lui-même, d'ailleurs, était tout prêt à combattre ce mal. Seulement, il ne voulait le combattre qu'indirectement, comme tant d'autres, dans ses conséquences et non dans ses causes, en venant au secours de celui-ci ou de celui-là. Grégoire Le Ménager. Mais qui est donc ce Lanzer et de quoi parle donc ce roman inédit de Louis Guillou? On parlera peut-être de cette histoire-là, de cette publication, mais de quoi ça nous parle?
Lanzer, c'est un brave professeur d'allemand dans une petite ville de l'arrière, manifestement en Bretagne, qui a l'air de ressembler à Saint-Brieuc, que Louis Guillou connaissait bien. Et ce Lanzer, donc c'est un brave homme qui est animé par une forme de bonté un peu rousseauiste qui le pousse à aller s'occuper de temps en temps de ceux qu'on appelle les indésirables, qui sont regroupés dans ce qu'on appelait à l'époque très joliment déjà un camp de concentration. C'était la terminologie officielle qui a ensuite connu la fortune que l'on sait. Et les indésirables, ce sont les gens qui, en temps de guerre, traînent ici ou là, on ne sait pas très bien à quel camp ils appartiennent, et hop, on les mettait dans ces camps de concentration, derrière des barbelés, non pas tant pour qu'ils s'échappent que pour les protéger de la population qui locale, qui les regardait d'un sale œil.
C'est une des activités du dimanche, hein, voilà. Comment les habitants de la petite ville vont vers le camp, voilà, avec victuailles.
Voilà, vont vers le camp et regardent ces indésirables comme des paresseux, des bons à rien, voire des ennemis de la nation,
qui ont le bonheur de se la couler douce derrière des barbelés. Donc il y a quelque chose d'assez d'une assez troublante actualité aussi, d'une certaine manière, dans cette façon qu'a Guillou, dès son tout premier roman, donc il écrit en quelques semaines à 23 ans, de s'intéresser, de parler des marginaux, des gens qui sont relégués, qui sont hors de la société. Et ce Lanzer, il va lui arriver quelque chose de pas très drôle, c'est-à-dire que il va s'occuper notamment d'une dame, je crois qu'une Alsacienne.
Une Alsacienne.
Voilà.
Donc une Allemande.
Donc fatalement, en temps de guerre, une boche. Toute une cabale orchestrée par un de ses ennemis locaux va animer la petite ville. Une rumeur va circuler et il va devenir une sorte de bouc émissaire. Et sa vie va se transformer en cauchemar. Quoi. Bon, je vais pas tout raconter. C'est un tout premier roman qui a énormément de maladresse, que les éditeurs de l'époque ont vraiment bien fait de refuser. Non pas parce qu'il y a des maladresses, mais parce que Guillou, ensuite, l'a intégralement remanié et en a tiré, vous en avez parlé, Le Sang Noir, qui est à mes yeux vraiment, je pèse mes mots, un des plus grands romans français du XXe siècle, qu'on ferait bien de relire d'urgence, d'inscrire au programme de l'agrégation. Et on voit, quand on connaît bien Le Sang Noir et quand on connaît un peu l'univers de Guillou, qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses en germe dans cet Indésirable. C'est très intéressant, assez émouvant aussi, assez touchant de penser que ce breton autodidacte, fils d'un cordonnier, à 23 ans, avait pu écrire déjà ça. Voilà.
Lucile Comeau, premier regard sur cet Indésirable de Louis Guillou.
Alors c'est un auteur que je découvre absolument avec ce roman, donc c'est pas forcément très très facile de rentrer par ce biais-là, parce qu'en effet c'est un roman qui, on peut pas vraiment parler de roman d'ailleurs, qui est en construction, avec un style qui s'éprouve, dont on sent qu'il va un petit peu dans tous les sens. Bon, c'est un très jeune homme qui l'écrit, on imagine toutes les lectures qui ont pu l'inspirer et qui regardent vraiment beaucoup vers à la fois le 18e siècle pour ce qui sont des valeurs en effet rousseauistes, les questions de l'éducation des jeunes gens, et du 19e siècle sur le plan formel, j'y reviendrai peut-être. Bon, c'est vraiment dans ces trous-là que c'est intéressant, parce que sinon sur le fond, on en reparlera, mais cette histoire de rumeur qui enfle, si elle n'est pas soutenue par quelque chose justement de très serré dans la construction, je trouve que ça ne fonctionne pas forcément très bien. C'est très étonnant la manière dont les personnages sont introduits. C'est pendant, je sais pas, une cinquantaine de pages, on ne peut absolument pas savoir ni quels vont être les personnages vraiment centraux, ni qui le narrateur tient un peu en estime, en tout cas en empathie, parce que ce Lanzer, il est aussi assez ambigu, parfois, on sent qu'il y a une forte ironie envers lui. À l'inverse, Badoiseau, ce nom est génial, donc, qui est le type qui ourdit la rumeur, il peut apparaître comme quelqu'un d'assez sympathique. Moi, je ne sais pas si c'est moi qui suis folle, mais j'avais même l'impression qu'au début, leur relation était un peu teinté d'homo-érotisme. Enfin, il y a quelque chose d'assez étonnant dans la relation qui se noue entre ces hommes-là. Puis après, on perd tout à fait ça. Il y a aussi le personnage de Madeleine, donc, qui est la fille de Lanzer, qui prend une importance immense puisqu'elle devient le centre du scandale. Mais on ne sait absolument pas qui c'est. Enfin, elle grandit d'un seul coup, on ne sait pas à quoi elle ressemble, c'est assez étonnant. Et puis son alter ego masculin, donc son flirt, comme elle le dit à un moment donné, qui est le fils Dupin, donc qui revient pour le coup, lui qui était sur le front et qui revient chez ses parents, de la même manière est une sorte d'avatar du narrateur, mais un jeune homme romantique qui est un pur archétype, enfin, c'est pas, même pas vraiment un personnage. Donc c'est difficile de suivre et de s'intéresser réellement à l'action du roman, dans la mesure où tout ça est amené un peu à U et à Dia, et en plus les personnages sont assez peu construits.
Vous reviendrez sur certains points, on va entendre Laurent Nunez sur l'Indésirable de Louis Guillou.
Oui, je trouve que vous êtes quand même très très sévère sur ce livre, sur ce récit qui ressemble à du Balzac, à une scène de vie de province où tout commence à cause d'une bague en toc, et c'est ça, c'est assez génial. Il y a une faculté chez ce très jeune écrivain, quand il écrit ce livre, à comprendre comment fonctionnent les mentalités de province, à se moquer absolument de tout le monde, à jouer comme ça sur les pulsions, sur les sentiments qu'ont les gens du bienfait fait par les voisins, c'est-à-dire que l'histoire c'est simplement en effet une sorte de rivalité. Ce qui est incroyable, c'est que c'est un livre de ricochet. C'est une histoire de rivalité entre deux profs qui est causée par une rivalité entre deux femmes et qui aura pour conséquence justement sur ces une sorte de malédiction sur les enfants sur Jean-Paul et Madeleine qui paieront pour quelque chose qui n'a pas eu lieu. Voilà. Et tout ça lié à une vieille dame qui a eu le malheur d'être généreuse. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que d'un coup on a l'impression que c'est presque à la limite d'une tragédie, c'est quelque chose qui arrive, qui fonce, personne ne peut l'empêcher. D'ailleurs Lanzer n'essaye même pas d'empêcher la vague arriver, comme dans le tsunami. Il y a une rumeur, elle va arriver, il le sait. Bon bah elle continue, elle écrase absolument tout, et on sait dès le début hein, qu'il va devoir quitter cette ville. J'ai trouvé vraiment, c'est un livre assez glaçant sur la méchanceté de province au 20e siècle, au début du 20e.
Alors moi, je suis très en phase avec Lucile Gaumont, enfin, sur certains points en tout cas. Et le fait est que je ne suis pas le bon lecteur de ce livre, puisque moi aussi, je n'ai jamais lu Louis Guillou, mais alors j'ai bien noté que Le Sang Noir doit être dans ma liste. Ah oui, non, mais ça doit être dans ma liste de lecture. Et donc, du coup, pour parler d'autre chose mais que du roman, moi j'ai lu avec grand intérêt la postface d'Olivier Macco, qui explique bien, qui est une longue postface, hein, tout l'intérêt de cet inédit quand on connaît bien Guillou, pour savoir comment cette œuvre d'un très jeune homme porte beaucoup de germes de l'œuvre à venir, qui montre bien comment Guillou a compris de lui-même, enfin s'est servi des erreurs ou des maladresses de cet indésirable pour reprendre, vous l'avez dit, certaines des figures de ce livre, certaines même de ces thématiques, mais en complexifiant, en radicalisant certains aspects de ce premier roman. Mais il n'est pas quand même dénué d'intérêt. Et c'est vrai qu'Olivier Macco, oui, on parle dans cette postface, mais ça m'avait assez frappé à la lecture. Il y a quand même le rêve de Lanzer, qui est un peu le début du livre, qui passe de bourreau à victime, puis à on ne sait pas quoi. Enfin, il y a une scène quand même très très étonnante. Et alors si ça a des échos dans la suite de l'œuvre, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des pulsions très fortes comme ça dans l'œuvre de Louis Guillou, qui sont à l'œuvre au sein même d'un même personnage ou de différents personnages?
Ah oui, Le Sang Noir repose beaucoup là-dessus. Le Sang Noir est centré sur le personnage de Cripure, qui est un concentré de tout ce que l'humanité peut avoir de génial et d'abominable. Enfin, mais j'entends bien ce que vous dites. Encore une fois, c'est un premier roman qu'il a écrit vite, qu'il a fini par abandonner. Il y a plein de choses qui sont mal vissées, il y a plein de boulons qui sont mal serrés, c'est évident.
J'aurais adoré écrire ça à 23 ans.
Mais stylistiquement, il y a des descriptions qui sont extrêmement étonnantes, et en particulier les 20 premières pages où il décrit la petite ville, le camp avec les réfugiés, la manière dont les gens viennent
ça,
le voir.
Ça, on voit très bien.
Ouais. C'est assez magnifique. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que le livre présente quand même une forme d'intérêt documentaire et d'audace sur le fond, quoi. C'est-à-dire que ça a été écrit en 23. C'est une phase. Les cendres de la Première Guerre mondiale, elles sont encore très tièdes.
Ouais.
Et il va les gratter pour montrer quand même la bêtise patriotique, criminelle, la manière dont ce jeune homme est accueilli dans sa ville par ses propres parents, alors qu'il a failli se faire flinguer au front et qu'il revient blessé de guerre et tout ça. C'est abominable, quoi. Et ça, ce sera un des grands thèmes du Sang Noir. Donc ça, il y a quand même quelque chose de très très fort là-dessus aussi, ce que Guillou nous a parlé des coulisses de la Première Guerre mondiale d'une manière. On parle toujours du voyage au bout de la nuit. Il l'a fait aussi, quoi, et d'une manière extrêmement fine et tout ça. Et puis au-delà de ça, je trouve que sur le fond, d'un point de vue presque métaphysique, même si là encore, c'est posé quelquefois avec des petites maladresses, il y a quand même une réflexion sur la manière dont la société, dont le mal, avec un grand M, peut se propager dans la société entre des hommes, dont le désir de meurtre s'installe quand il y a une foule, et dans la manière dont tout ça est amplifié en temps de guerre, naturellement, qui est magnifique. Et sur la vie de province, il a un côté Balzac, il a un côté Flaubert aussi, et il nous dit la guerre en province est sourde, c'est une guerre de taupes, elle est polie, les ennemis se rencontrent 100 fois par jour au coin des rues, et chaque fois qu'ils se rencontrent, ils échangent un salut. Et il y a vraiment cette idée qu'il y a une guerre qui est là, qui est larvée, et qui demande qu'à se réveiller. Ça l'inquiète énormément, parce qu'il n'y a pas plus humaniste que Guillou. C'est pas un misanthrope furieux, hein, loin de là. Et tout ça est en tension déjà dans ce livre-là. Mmh. Donc d'un point de vue thématique, je trouve que le livre est assez passionnant.
Oui, et puis il y a une violence terrible à propos de ce jeune soldat. Cette édition propose en annexe une autre fin, une fin plus longue, mais celle que Guillaume avait choisie d'une sécheresse qui est pour le coup très très forte. Lucille Gaumont.
Oui, en effet sur la forme roman sur la province, c'est assez passionnant. Même si bon, je continue à dire qu'il y a des choses qui regardent très très à l'arrière et qu'on n'a pas très envie de lire. Moi, j'ai beaucoup pensé à Clouzot en lisant le livre, à la fois au diabolique, parce que le contexte école de Troisième République, et surtout le corbeau. Et là, pour le coup, il y a quelque chose au niveau du style qui est très cinématographique, dans la clôture, le fait qu'au final, le camp décrit au départ devient, s'étend aux dimensions de la ville, et que la ville devient un espace absolument fermé dans lequel la rumeur fonctionne par ricochet. Et j'aime beaucoup les passages dialogués il n'y a même pas de tiret ni de signe d'énonciation, des espèces de rumeurs qui finissent par circuler. Par exemple, le personnage de jeune homme qui est un héros de guerre puisqu'il a été blessé, tout le monde finit par douter même de l'existence de la blessure. Il y a aussi des descriptions de vieilles femmes qui jubilent de cette propagation de la rumeur et qui redeviennent des jeunes filles à l'évocation du potentiel licencieux du couple que forment Madeleine et Jean-Paul. Tout ça m'a vraiment fait penser à les films de Clouzot, dans ce que justement l'œuvre de l'arrière, l'œuvre sur la guerre et sur la bourgeoisie pendant la guerre peut avoir de plus glaçant et de plus efficace aussi.
Laurent Nunez, pour terminer sur L'Indésirable de Louis Guillou.
Non, c'est vrai qu'il faut vraiment appuyer sur les dialogues qui sont vraiment excellents et sur la manière qu'il a de d'abolir les individus. C'est les commerçants, c'est les vieilles, c'est les parents. Voilà, il y a une sorte, c'est des cœurs en fait qui s'expriment et tout ça contre vraiment des individus comme Jean-Paul ou Madeleine. Notez au passage que Jean-Paul à l'époque, c'était aussi le nom d'un écrivain allemand un peu oublié, mais qui devait bien faire rire les lecteurs, parce que justement, c'est tout le problème, c'est qui est boche ou qui n'est pas boche dans ce livre, c'est le problème.
L'Indésirable, roman inédit de Louis Guillou, qui vient donc... Pardon.
Est-ce que je peux juste faire une toute petite publicité. Allez-y. Pour une soirée qui va avoir lieu à la Maison de la Poésie le 21 mars, en présence de quelqu'un que vous aimez bien, je crois, qui est Éric Vuillard, qui viendra parler de Louis Guillou.
Comme elle est bienvenue, cette publicité. Je confirme mon intérêt et mon admiration pour Éric Vuillard. Donc, L'Indésirable, Louis Guillou, La Maison de la Poésie, le 21 mars. Roman inédit, publié chez Gallimard. Un coup de cœur de Laurent Nunez, il l'avait oublié en début d'émission. S'en est-il souvenu? Que pouvez-vous nous dire de Pouvoir de l'imposture de Maxime Decoux aux éditions de Minuit? Vous pouvez faire court, ça tombe bien parce qu'il y a un petit salon derrière.
Je n'ai pas envie de faire court parce que Maxime Decoux.
Vous ne voyez pas, mais vous avez envie.
Maxime Decoux est un essayiste qu'il faut connaître, qui publie dans la collection Paradoxe chez Minuit. Vous savez, c'est la même collection que Pierre Bayard. Et c'est aussi presque les mêmes enjeux. Il publie là son troisième livre. Decoux travaille principalement sur les questions d'authenticité. Et son premier livre, c'était En toute mauvaise foi. Il travaillait comme ça sur la mauvaise foi dans la vie et dans la littérature. Pour lui, il n'y a aucune différence. Ensuite, son deuxième livre, c'était Qui a peur de l'imitation? Et là, c'était très beau sur l'authenticité, sur le fait qu'on vit dans une société qui rêve d'originalité, mais que ça n'existe pas. Et là, son troisième livre, c'est sur l'imposture. Vous savez, l'imposture, c'est une sorte de défaut, c'est décrié, et il essaye de montrer à travers plusieurs figures à quel point la littérature a besoin d'imposteurs pour être intéressante, c'est-à-dire d'imposteurs à la fois en tant qu'écrivain, de gens qui mentent, de mythomanes, comme Sandrard, c'est le plus grand mythomane peut-être possible, mais en même temps d'un point de vue de la narration. Vous savez, par exemple, le XXe siècle a beaucoup puisé sur ce qu'on appelle des narrateurs non fiables, c'est-à-dire des gens qui sont capables... Quand on écoute quelqu'un raconter une histoire dans un livre, il est beaucoup plus amusant peut-être que cette personne mente ou trompe ou triche. C'est ce que disait déjà Gide en parlant des Hauts du Hurlevent. Il faut faire raconter toute l'histoire par quelqu'un qui est en colère. Et donc voilà, il travaille sur ça à travers différents thèmes. Le détective, le psychanalyste, l'écrivain, le joueur. C'est vraiment l'éloge de l'imposture. C'est assez dérangeant, moi ça me plaît beaucoup.
Ben moi j'ai pas envie de lire un livre de Maxime Decoux, j'ai envie de lire les trois parce que je ne les connais pas. Le dernier en date, c'est Pouvoir de l'imposture, aux éditions de Minuit. Et nous sommes entrés avec cette belle musique dans le petit salon de Lucile Como. Et ce soir, cette question, doit-on dire merci à Tommy Ungerer ?
Oui, Tommy Ungerer, grand auteur et illustrateur d'origine alsacienne. Il est décédé le 9 février dernier et de nombreux articles ont été consacrés depuis à son œuvre prolixe et surtout à sa production pour les enfants. Les Trois Brigands, Le Géant de Zeralda, Jean de la Lune en particulier reviennent sous la plume des journalistes comme référence absolue d'une bonne littérature jeunesse. Partout, il est célébré pour avoir apporté une étrangeté et une liberté bienvenue dans les livres pour enfants, considérant ses petits lecteurs comme des êtres intelligents et doués d'esprit critique, usant d'un ton nouveau, anticonventionnel et irrévérencieux, je cite. On répète surtout à qui mieux mieux cette phrase qu'il aurait prononcée il y a plusieurs dizaines d'années, il faut traumatiser les enfants pour qu'ils aient une identité. Alors j'ai recensé par curiosité les noms des journalistes qui dans la presse généraliste avaient couvert le décès de Tommy Ungerer et je constate que les nécrologies et autres articles sont rarement le fait de critiques littéraires. La littérature jeunesse reste ainsi une niche qui ne trouve pas forcément sa place dans les cahiers spécialisés et pourtant les petits lecteurs sont nombreux. Une étude du Centre National du Livre en 2016 offrait d'enthousiastes perspectives puisqu'apparemment 89% des 7-19 ans lisent. Ils consacrent en moyenne 3 heures par semaine à la lecture et ils disent aimer lire pour 77% d'entre eux. Cet iceberg de la littérature jeunesse fait d'ailleurs les choux gras du marché puisqu'aujourd'hui il représente une très grande partie des ventes, à peu près comme la bande dessinée. L'année dernière, le Salon du Livre de Paris avait ouvert un large espace à ce qui est apparemment convenu d'appeler Young Adult, ces livres pour adolescents extrêmement lucratifs dont les locomotives ont été sans nul doute les sagas américaines Twilight, et Hunger Games. Alors il est vrai que nous sommes bien loin des héros de Tommy Ungerer, mais cette France qui se situe entre le livre illustré pour enfants et la littérature telle que nous la pratiquons, nous, a ceci de fascinant qu'elle est une transition et qu'elle permet peut-être de comprendre comment on passe de lecture de jeunesse à la lecture adulte, par quel goût et par quelle pratique. Là aussi, elle ne semble guère intéresser la critique classique. À l'occasion du même salon l'année dernière, Le Monde s'était fendu d'un article sur 5 livres Young Adult, mais cette sélection n'apparaissait pas dans les pages libres, pas même dans la section culture du site, non. On l'a trouvée dans les pages Pixel, dédié aux innovations numériques, à côté d'articles sur Twitter et sur les jeux vidéo. Alors que c'est une question qui se pose, et par là j'entends que je me la pose régulièrement, parce que peut-être j'ai moi-même de petits-enfants, la manière dont mes lectures enfantines ont pu modeler la lectrice que je suis aujourd'hui. En tout cas, je vous retourne à cette interrogation. Avez-vous une théorie, sinon une pensée, sur ce que vos lectures d'enfants ont pu déterminer de votre pratique de la lecture aujourd'hui ?
Voilà qui est une question précise. C'est celle-là qu'elle nous avait, dont elle nous avait prévenu, Lucile Como. Pas sûr, c'est exactement comme ça.
Ça ressemblait un petit peu à ça.
Bon, nous sommes tremblants. C'est Grégoire Le Ménager qui va commencer à tenter de répondre.
Oui, je tremble, effectivement. Non, je suis content qu'on dise trois mots de Tommy Ungerer. Moi, il y a une phrase que j'aime bien aussi. Alors, je ne sais pas si elle est apocryphe ou pas, mais je l'ai beaucoup vue circuler. C'est il faut faire très peur aux enfants quand ils sont petits, sinon ils deviendront tous experts comptables. Je trouve ça assez magnifique.
On salue les experts comptables, quand même. C'est un beau métier. Il y a des gens qui ont la vocation, vous savez.
Mais bien sûr, il faut de tout. Ou presque.
Tant mieux. Ça nous arrange qu'il y ait des comptables, quand même.
Écoutez, votre question me laisse très perplexe. Je n'arrive pas à savoir si lecture qu'on fait quand on est enfant conditionne le lecteur qu'on va être plus tard. Il me semble assez évident que quand on aime lire enfant, on a plus de chances de continuer à aimer lire après. Est-ce que il y a des livres qui nous marquent évidemment hein, et qui façonnent notre identité. Enfin, je sais pas. Moi, je pense que le fait d'avoir beaucoup aimé lire Tom Sawyer, Pagnol, des choses comme ça quand j'étais enfant, ça fait sûrement partie de moi. Après, est-ce que c'est ça qui fait que j'ai beaucoup aimé Louis Guillou après, je sais pas.
Par exemple, la filiation Pagnol-Guillou,
la filiation Pagnol-Guillou, possible, oui. Oui, c'est possible, bien sûr. Mais non, c'est compliqué. Alors du coup, comme je sais pas pour ce qui me concerne, j'ai essayé de regarder un peu ce que des écrivains disaient. Alors, j'ai relu des entretiens avec Annie Arnaud qui sont très intéressants, où elle parle de sa lecture des Hauts de Hurlevent, de tout ça. Mais c'est des lectures d'adolescents, c'est plus des lectures d'adolescents que de lectures d'enfants. En tout cas, elle dit, c'est une certitude pour moi que nous pouvons savoir qui nous avons été, quels sont nos désirs, aller plus loin dans notre propre histoire, en essayant de nous souvenir de tous les textes lus. c'est vrai que ça nous constitue. Et puis j'ai regardé Sartre aussi, parce que les mots de Sartre, c'est toujours un bonheur d'y remettre son nez. Et Sartre, même perplexité, est-ce que le fait qu'il ait lu beaucoup Cri-Cri, Les Patents, Les Vacances, Les Trois Boy Scouts et Le Tour du Monde en aéroplane, puis Les Enfants du Capitaine Grant, Le Dernier des Mohicans, les transformer après en lecteur de Heidegger, je sais pas, ou de Husserl en tout cas, je sais pas. Il y fait une petite analyse assez drôle de ses lectures de romans d'aventure, où il dit que ça lui a permis de localiser le mal pur, qui n'apparaissait que pour se prosterner devant le bien, qu'il aimait beaucoup les blancs courageux qui feraient une hécatombe de sauvages, qui trancheraient les liens du père. Enfin, on voit qu'il y a quelque chose, un système assez manichéen qui s'installe dans sa tête à ce moment-là. Est-ce que ça se retrouve après chez lui? Je ne sais pas. Et puisque je préfère dans les mots, j'en profite, finalement, je deviens de plus en plus hors sujet, mais c'est pas grave parce que c'est génial, c'est que il aime beaucoup Courteline, donc son grand-père lui dit: Courteline doit être un bon bougre, si tu l'aimes tant, pourquoi ne lui écris-tu pas? Ouais. Donc il lui écrit une lettre, et je prenais congé sur ces mots: votre futur ami, qui me semblait tout naturel, puisque j'avais pour familier Voltaire et Corneille, comment un écrivain vivant eût-il refusé mon amitié? Donc ça, c'est Sartre qui doit avoir 10 ans à l'époque, ou 12 ans, je sais pas. Mais je suis très embêté par votre question.
Mais est-ce que vous êtes embêté, Laurent Nunez?
Oh, bien sûr, parce que c'est de l'intimité. Qu'est-ce qui est plus intime que la lecture d'enfance? On est tous là des lecteurs professionnels, on doit lire à la fois pour le travail et les rentrées littéraires, etc., etc. Quand on est enfant, il y a autre chose qui arrive. Ce que les professionnels appellent la lecture cursive, qui est la lecture pour le pur plaisir, et du coup on en a un peu honte. Vous savez, c'est comme les rêves, on veut pas les dire parce qu'on se doute que derrière on dit beaucoup de choses. Moi j'étais passionné par Club des Cinq, par Fantomette, avec cette envie de tout lire d'un personnage. Vraiment à la recherche des Fantomettes. La Comtesse de Ségur m'a énormément marqué. Et ensuite, du coup, c'est vrai que quand j'ai eu 20 ans, j'ai eu envie de lire un livre de Nimier qui s'appelait Faut-il brûler la Comtesse de Ségur, parce que c'était très violent. C'était sur l'abandon, c'était sur la méchanceté des adultes. Et c'est là qu'en effet, on voit qu'en effet, il faut traumatiser les enfants pour qu'ils puissent, survivre à la lecture et former leur moi. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que je trouve qu'en effet, les parents devraient faire attention, beaucoup plus attention à la lecture, non pas leur proposer aux enfants des livres moraux, qui d'ailleurs il y a peu d'auteurs de jeunesse qui font ça, mais justement les habituer à ce qu'ils puissent choisir eux-mêmes et découvrir tranquillement. Moi, mon enfance, mes plus beaux moments d'enfance, je les ai passés le soir quand mes parents regardaient la télé. J'allumais en secret la lampe de chevet et je lisais le Club des Cinq. Voilà.
Lucile, comment ?
Moi, ce que je trouve assez intéressant, et pour le coup que je continue à interroger quand je lis aujourd'hui en tant que lectrice professionnelle, donc comme quoi il y a quand même des passages, c'est, je crois, une dialectique qui se joue dans la lecture enfantine entre, en effet, être bousculé, c'est-à-dire se forger un esprit critique, je pense que Tommy Ungerer, il était clairement de ce côté-là, et se rassurer. Et je pense que c'est quelque chose qui a un moment aussi historique, c'est-à-dire que je pense qu'avant Ungerer, avant les années 50, on lisait enfant des livres pour se rassurer sur des valeurs morales, sur des valeurs sociales, etc. Bah. Et que la littérature jeunesse, elle a changé aussi de ce point de vue-là. Elle a changé en amenant de l'étrangeté, en amenant de l'esprit critique, en amenant de la violence. Voilà.
Et le Chaperon Rouge, c'est pas d'une...
La Comtesse de Ségur, c'est pas pour les enfants. Très traumatisant.
Bah, oui, mais enfin, c'est censément tous ces contes.
Oui, mais ce sont des choses qu'on peut lire totalement au premier degré. Après, ce qui se joue dans l'inconscient.
Oui, il y a l'inconscient, mais j'ai lu il n'y a pas très longtemps, pour le travail, un livre pour enfants, jeune public de Florence Sévaux. J'ai trouvé ça d'une intelligence folle et j'ai très envie d'une richesse d'écriture et de différentes strates que j'ai trouvé absolument formidable. Et en vous écoutant, donc j'ai fait le petit chemin de fer. Oui, d'abord. quand même ça, ma première lecture. Ça me passionnait. Le Club des Cinq un peu. Puis après, c'est Jules Verne. C'est en CM1, CM2, je crois. Et alors là, c'est vraiment la passion totale de la lecture. L'univers imaginaire, je me souviens très bien qu'il me tardait de rentrer de l'école pour lire. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui prenait beaucoup de place, et à la fois sur l'imaginaire, sur la possibilité des mondes, sur, pour le coup, sur l'empathie. La mort du capitaine Nemo, je l'ai vu comme un drame personnel. Bon, là, j'ai un peu divulgué, hein, mais je crois que les gens qui nous écoutent le savent. Et après, c'est vrai aussi que, pour le coup, les parents qui m'ont aussi guidé, Balzac, Kafka, après, plus... un peu plus tard, Calvino, Thomas Bernard, quoi, les trucs qui vous forgent à la fois l'esprit, le regard sur le monde. Enfin, je crois que c'est ça qui est important. Et de fait, moi, j'ai lu des choses très, très différentes toute ma jeunesse, pour parler de choses intimes, comme dirait Laurent Nunez. Et du coup, j'ai un goût qui est resté très ouvert. Et je crois que ça s'origine en effet dans l'enfance. Lucille Comeau.
Et sur ce vaste continent de la littérature, ce qu'on dit young adult, qui est quand même énorme. Ouais. Alors moi, je ne connais absolument rien.
Alors moi, j'ai fait
rien.
Une rencontre l'an dernier au Salon du Livre pour France Culture avec Marissa Meyer, dont j'ignorais évidemment l'existence. Et j'ai vu des gens transis d'admiration qui étaient là depuis des
beaucoup
heures
de filles,
avant,
très,
beaucoup de jeunes filles. Mmh. Elles vendent des millions de livres en réécrivant, en fait, Le Petit Chaperon Rouge, justement, Blanche-Neige,
Cendrillon,
etc. Et du coup, je m'étais renseigné, mais ça touche des millions, voire des dizaines de millions de lecteurs de par le monde. Est-ce que vous avez eu, vous et critique professionnelle, la curiosité ou la conscience professionnelle d'aller y regarder un peu?
Moi, j'ai laissé une de mes collègues
courageusement
y mettre son nez. Non, en revanche, ce que j'observe, c'est que je pense qu'il y a un avant et un après Harry Potter dans l'éducation au goût. Alors, c'est pas tellement littérature qui rassure ou qui inquiète, c'est pas tellement ça, mais en revanche, il y a une sensibilisation de une voire deux générations là qui a été faite à travers Harry Potter à des formes de littérature fantastique auxquels moi j'ai été très peu confronté dans ma génération. Et effectivement, même s'il y a de l'imaginaire chez Jules Verne
chez Tolkien aussi, parce que la fantaisie.
Il y a Tolkien. Alors moi, je suis passé un peu
à côté
de Tolkien,
mais
bon, mais oui, il y a quelque chose de cet ordre-là.
Laurent Nunez.
Il faut rajouter que la lecture, quand on est enfant, c'est la seule chose qu'on peut faire de totalement individuel. Vous savez, on ne compte plus les spectacles familiaux. Quand on regarde la télé, c'est ensemble. Quand on va dans un parc d'attractions, c'est ensemble. Même quand on écoute de la musique dans sa chambre, les parents entendent cette musique. On n'est jamais seul. Le seul moment où on est seul, c'est devant un livre. Et ça crée un rapport assez incroyable. Moi, je pense vraiment que ça individualise la conscience. Et d'un coup, on a un plaisir qui est le seul plaisir. Enfin, c'est raconté par Proust dans le petit cabinet de toilette dont il parle au début du Côté de chez Swann. Voilà, la lecture est un plaisir, c'est un plaisir solitaire qui a besoin dès le début d'être conçu comme ça. C'est le seul plaisir où je peux lire quelque chose d'horrible devant mes parents qui ne le voient pas. Et ça, c'est quand même assez jouissif.
Mais tout ça ne nous dit pas si vous avez lu de la littérature young adult, Laurent Nunez.
Ah non, attends,
vous avez passé votre tour.
Oui. À cause de ce terme.
C'est vrai. Bon, il faut trouver un autre terme peut-être pour lui apprendre.
Peut-être jeunes adultes alors.
Oui,
c'est sûr que c'est quand même, je pense, un problème. Mais ça m'étonne quand même que...
Surtout qu'au Salon du Livre, il y avait un corner young adult. Donc c'était ça aussi, c'est redondant.
Qu'on ne s'y intéresse pas à ce point-là, c'est quand même... Enfin, à mon avis, c'est un problème, il faudrait...
Oui, mais vous savez, c'est comme dans les émissions de musique, ça fait des années que je me dis qu'il faut qu'on parle de musique métal.
Ou de jazz, vous voulez dire?
Non, je parle pour les jeunes, pas pour les vieux comme vous, Lucille.
Oui,
non, je plaisante, pour celles et ceux qui aiment le jazz, c'est une vieille blague entre Lucille Comeau et moi. Mais le métal est écouté par des millions et des millions d'auditeurs de par le monde. Il n'a pas vraiment le droit de citer, y compris sur notre antenne, qui est pourtant très accueillante. Dernier mot, Laurent Nunez.
Oui, non, il y a un auteur de jeunesse que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Antoine Dole, qui publie chez Actes Sud des romans, et qui publie des BD, notamment une BD hilarante qui s'appelle Mortel Adèle, voilà, sous le nom de Mr. Tan. Mortel Adèle est une gamine qui maltraite son chat.
Nous en avons parlé dans la dispute, mon cher Laurent Nunez, car nous nous intéressons à beaucoup de choses, mais pas au nu metal, ni au young adult, ni au jazz, à suffisamment. Il y a un tout petit peu de jazz de temps en temps, jamais de métal. Et Dieu sait que j'aime pas particulièrement, ou je connais mal le métal. Bon, on s'arrête là-dessus. Et
on va bien refaire des petits salons comme ça, un peu psychanalytiques.
Oui,
surtout avec Grégoire. Grégoire, ça fait vraiment très très à l'aise.
Ouais, si nos auditrices et auditeurs ont envie de partager avec nous leur lecture et ce qui a façonné leur imaginaire de lecteur, ils peuvent le faire sur le compte Twitter de la dispute. Dispute FC. Une petite annonce avant le jeu de la dispute pour dire que France Culture et Théâtre de la Ville vous invite à passer un après-midi avec Abdelmalik. Ce sera ce samedi au Théâtre de la Ville à l'espace Cardin de 14h30 à 18h30. Beaucoup de lectures par des comédiens, de textes choisis par Abdelmalik, notamment des textes d'Albert Camus, d'Aimé Césaire, d'Edouard Glissant, de Sénèque, de Léopold Sédar Senghor et de bien d'autres. Et il se trouve que je mènerai aussi une masterclass avec Abdelmalik dans cet après-midi entre 16h et 17h. Réservation pour ce samedi après-midi sur le site franceculture.fr. Sarah Dion. J'ai failli dire Céline. C'est quand même, j'ai jamais fait un depuis tous ces mois. Sarah Dion est avec nous. On est vraiment fatigué. Elle va d'abord nous rappeler, chère Sarah, la question du jeu d'hier soir et nous donner sa réponse.
La question d'hier était pour lequel de ses films Denis Arcand a-t-il obtenu un Oscar? Et la réponse est Les Invasions Barbares.
Ça devait être le tropisme québécois de la question qui m'a fait penser à votre cousine. Ce soir, des invitations à gagner pour le film Peu m'importe si l'histoire nous considère comme des barbares de Radio Jude qui est sorti hier sur les écrans. On en parle demain dans la dispute. Quelle est la question, Sarah?
En quelle année ont eu lieu les massacres d'Odessa décrits par Radu Jude dans son film?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur notre émission à retrouver sur le site franceculture.fr à la page de la dispute. Demain, donc, 19h en public au Bel Air, le bar de la maison de la radio. Dispute cinéma avec Charles Garçon, Philippe Azoury et Antoine Guillot. À notre affiche Grâce à Dieu de François Ozon, Les funérailles des roses de Toshio Matsumoto, Peu m'importe si l'histoire nous considère comme des barbares de Radio Jude. Et donc un retour sur la Berlinale 2019 en compagnie de Philippe Azoury.